Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat consacré aux régions. Après 5 ans de nouvel acte de la décentralisation, c'est ainsi qu'on l'a appelé. À l'ordre du jour ce soir, les régions ont-elles suffisamment de pouvoir ? Partout dans le monde, la lutte contre la pandémie a permis de mettre l'État à nu dans son fonctionnement et ses relations avec les collectivités territoriales. Dans un pays dont le jacobinisme est souvent critiqué, le gouvernement a été attaqué par des présidents de départements, des présidents de régions ou de grandes métropoles pour la verticalité des décisions prises malgré la volonté affichée de travailler, comme il le dit, avec les territoires. Alors, 5 ans après la mise en place d'un acte 3 de la décentralisation et avant la présentation en février d'une loi différenciation, décentralisation, déconcentration, décomplexification, la loi 4D, quel bilan peut-on faire des relations entre État central et région au cœur de l'épreuve de la Covid ? Nous allons en discuter avec 3 invités. Géraldine Chavrier, bonsoir Géraldine Chavrier.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'université en droit public à Paris 1 et vous êtes avocate spécialiste des collectivités territoriales. Avec nous également Romain Pasquier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et enseignant à Sciences Po Rennes. Et avec nous Marie-Guide Dufay, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et merci d'avoir libéré un peu de votre temps de présidente Bourgogne-Franche-Comté pour pouvoir débattre et discuter ce soir justement de la place des régions dans notre démocratie.
Les présidents de région, des maires, David Lisnard à Cannes, d'autres présidents de région, moi-même, nous sommes prêts à ouvrir des lieux. Cela fait des semaines que je dis aux responsables du ministère de la Santé dans ma région, dites-nous comment on peut prêter main forte. Et vous savez, sur la question pratique et logistique, faut faire confiance au terrain. J'aurais vous donner un exemple. La question du Brexit chez moi. La question du Brexit a été importante pour anticiper le Brexit. Nous avons travaillé avec l'État, mais l'État en région. Le préfet de région, Michel Lalande. On a regardé, encore une fois, dans une logique d'anticipation, toutes les questions concrètes et logistiques. Les douanes ont fait un travail remarquable. Eh bien, depuis le 1er janvier, même s'il y a un accord qui a facilité les choses, il y a une fluidité, ce qui montre bien que quand on veut, on peut. Il faut juste sortir de la logique centralisatrice, bureaucratique de Paris. Et encore une fois, c'est pas sans l'État, c'est avec un vrai partenariat qu'on nous laisse faire.
Vous l'avez reconnu, il s'agit du président de région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui était ce matin sur France Inter. Marie-Guide Dufay, vous êtes avec nous et vous êtes présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez la même approche que ce qui vient d'être présenté par Xavier Bertrand ?
Oui, oui. Il faut qu'on arrive à mieux travailler avec l'État. On travaille très bien avec l'État décentralisé, hein, c'est-à-dire les préfets. Et ce que dit Xavier Bertrand par rapport au Brexit, moi, je peux complètement le dire, dans notre région, très industrielle, sur la question de l'accompagnement de l'industrie suite à aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Nous avons travaillé avec l'État, main dans la main, et là, il s'agit de l'État déconcentré depuis le mois de septembre, avec le plan de relance de l'État d'un côté, le plan d'accélération des investissements de la région de l'autre, et ça a donné quelque chose de superbement efficace, parce qu'on est arrivé à capter beaucoup, beaucoup de moyens sur notre région industrielle.
Mais j'ai l'impression que quand vous dites l'État déconcentré, on travaille bien avec lui, c'est moins bien que de travailler avec Paris.
Bon, bah voilà, avec Paris, c'est différent, c'est totalement différent, mais qu'est-ce que vous voulez ? On est dans un État qui est jacobin et qui a du mal à reconnaître et à donner des compétences aux régions. Qui dit compétences, dit droit de travailler sur tel domaine au détriment de l'État et des moyens qui vont avec. Et là, la décentralisation, elle se fait, mais vraiment... très 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 difficilement. Depuis Gaston Defferre, on a quand même très peu avancé en matière de décentralisation. Il y a eu effectivement en 2014 la loi NOTRe qui a un tout petit peu permis de clarifier pour les régions des compétences, notamment en matière économique, et ça c'était une avancée, mais c'est quand même très peu, et on a toujours le niveau régional qui avec le niveau de l'État, c'est pas trop comment faire. Et on a l'impression que quand on avance en matière de décentralisation, l'État central s'ingénie à créer de nouvelles structures, de nouveaux échelons qui viennent concurrencer ce qui est déjà fait sur les territoires.
Par exemple ?
Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Par exemple, au niveau de la culture, par exemple. La culture, c'est un échelon qui n'est, c'est une thématique qui n'est pas décentralisée. Tout le monde a des compétences en matière culturelle. Mmh. Les départements, les communautés de communes, les régions. Et donc, il a été décidé qu'il y avait ce qu'on appelle une, je sais même plus le titre, hein, CTAP, Commission territoriale de l'action publique, qui réunit tous les échelons territoriaux pour qu'ils travaillent ensemble. C'est plutôt bien. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? D'une part, l'État n'y est pas. Moi, j'invite l'État dans ces commissions, mais la loi n'a pas prévu que l'État y était. Hein. Nous travaillons, mais comme chacun a un pouvoir, puis qu'il n'y a pas de juge-arbitre et tout ça, en fait, petit à petit, les élus, ceux qui ont le pouvoir, ne viennent pas dans ces commissions. Ce sont des techniciens qui viennent, et donc ce ne sont pas eux qui peuvent décider. Mais parallèlement, l'État met en place des commissions qui traitent des mêmes sujets. Je ne sais plus comment s'appelle la commission technique culturelle, je crois, une CTC, hein, qui est mise en place par l'État, mais qui vient finalement faire doublon avec ce qui devait être traité par cette CTAP qui était prévue par la loi. Donc, c'est quand même très, très compliqué. Ouais.
Géraldine Chevrier, sur ce point, et en particulier, pas simplement sur ce point de la culture, mais plus généralement, la difficulté de l'État à lâcher un certain pouvoir à certaines collectivités territoriales, et en particulier les régions, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh, ça a toujours été ainsi. Depuis 2003, on a quand même énormément évolué. Il faut quand même pas voir les choses uniquement sous un angle négatif. On a beaucoup plus de concertation. On est vraiment passé d'une décentralisation octroyée à une décentralisation concertée. Néanmoins, il est évident que, d'une part, pour l'État, les collectivités territoriales restent des niveaux de gestion. C'est-à-dire qu'elles vont gérer l'eau, elles vont gérer des services publics, des transports, voilà. En revanche, c'est pas un niveau de décision qui serait suffisamment mûr, majeur pour prendre des décisions, pour orienter ses compétences lui-même en fonction des circonstances. Tout est fixé de l'État et il n'y a donc pas de concertation. Concernant le niveau régional, on est dans une situation qui est extrêmement complexe parce que la région, c'est pas une collectivité territoriale comme les autres. C'est un niveau qui serait plutôt infra-étatique et supra-local. Donc, il a des compétences qui sont un peu des compétences de concurrence à l'égard de l'État. Il met en action au niveau de l'économie, de la formation professionnelle, de la recherche, de l'innovation. C'est un coordonnateur sur le territoire. Et en France, comme dans d'autres États, la dimension électorale est très forte. Aujourd'hui, les présidents de région sont extrêmement présents sur la question de la pandémie. Il est vrai qu'elles n'ont pas vraiment de compétences en matière sanitaire. Elles ont une compétence en matière de développement sanitaire. Elles sont là aussi parce qu'on va avoir un positionnement politique et ça crispe également. Alors, on a un État qui a toujours été jacobin. On a des échéances électorales régulières qui posent un problème en termes de décentralisation et on a un niveau régional qui n'est pas admis à la hauteur de ce qu'il doit être. C'est un niveau infra-étatique qui doit être traité comme tel.
Et c'est tout à fait évident qu'effectivement, on se demande parfois, en particulier en temps de pandémie, Romain Pasquier, pourquoi les régions n'ont pas cette compétence de santé, par exemple. Et on a l'impression, quand on entend les présidents de région, quand on entend Xavier Bertrand, quand on entend Jean Rottner dans le Grand Est, eh bien qu'ils aimeraient bien l'avoir, ou en tout cas qu'ils contestent le fait que l'État soit le seul à pouvoir décider dans ce domaine, par exemple.
Bah, disons que ces grands élus sont des responsables politiques. Et donc, ils ont une mission de représentation de leur territoire. Donc, naturellement, lorsqu'il y a des crises, qu'elles soient économiques, sanitaires ou sociales, ils vont apparaître comme des porte-paroles de leur territoire. Donc, c'est un effet démocratique tout à fait classique. La décentralisation a permis aux élus locaux et régionaux de prendre en charge le destin de leur territoire. Et donc, il est normal que des grands élus que vous venez de citer se prononcent sur effectivement des crises sanitaires qui touchent directement leur territoire, même s'ils n'ont pas de compétences directes. Les compétences en matière de santé, ça a été rappelé par Géraldine Chevrier, sont très très indirectes. Mais cette fonction de représentation, d'incarnation du territoire, fait que effectivement ils prennent la parole, et comme en plus ça s'inscrit dans des cycles électoraux qui vont arriver dès juin, ils ont intérêt pour eux-mêmes à prendre parole, à prendre la parole.
Oui, mais d'une certaine façon, Marie-Guite Dufay, on pourrait le comprendre. Il y a d'abord les échéances électorales qui vont arriver effectivement avec les régionales qui ont été repoussées de 2 mois au mois de juin, mais également il y a l'idée que ben voilà, on a vu certains présidents de région eh bien se bagarrer pour pouvoir avoir au moment du premier confinement un certain lot de masques qu'ils ne pouvaient pas avoir autrement, etc., etc.
Oui, oui, et je pense que là, vous vous adressez à quelqu'un qui a été complètement immergé dans la question, hein, puisque les masques, je suis allée effectivement les chercher, en coopération d'ailleurs étroite avec la région Grand Est, et nous nous les sommes fait subtiliser par l'État sur le tarmac de... Alors, je ne sais plus quel aéroport de Grand Est. Hein. Ouais. Donc, ça a été quand même un exemple de décentralisation complètement ignorée.
Hein. Et puis là, maintenant, pour l'instant, au moment de la vaccination, on entend aussi qu'il y a une deuxième crise, d'une certaine façon, entre ces régions et l'État. Même si vous n'avez pas de compétences de santé, c'est la question de savoir comment on va pouvoir mettre en œuvre la vaccination, qui va le faire, pourquoi ça ne va pas plus vite. Est-ce qu'on peut différencier les régions entre elles? Vous êtes particulièrement touché avec Bourgogne-Franche-Comté, comme Grand Est d'ailleurs.
Oui, alors ceci dit, nous avons demandé, hein, moi je l'ai demandé au Premier ministre, et je sais que ça a été relayé par le préfet, et puis que les régions vont demander, on va se mettre ensemble pour demander à ce que les départements qui ont vu la mise en œuvre du couvre-feu, qui sont donc les plus touchés aujourd'hui par l'épidémie, soient priorisés en matière de vaccination. Hein. Donc ça a été demandé. Mais c'est vrai que à l'issue du premier confinement et dans le cadre des débats sur la décentralisation, nous avions demandé à ce que il y ait véritablement une avancée en matière de santé et que au niveau des ARS, il y ait
les agences régionales de santé.
Voilà, il y a au moins une cogestion et que les élus soient dans la gouvernance de ces agences régionales de santé qui aujourd'hui sont complètement à l'écart du pouvoir politique, qui sont uniquement à la main de l'État, bien sûr, hein, qui représente le préfet en matière sanitaire dans chaque région. Mais les élus ne sont absolument pas impliqués dans la gouvernance et donc dans les décisions de l'ARS.
Est-ce que vous comprenez cette méfiance, justement, en tant qu'élu vous-même, Marie-Guite Dufay?
Comment ?
Est-ce que vous comprenez cette méfiance de l'État vis-à-vis de la possibilité que vous soyez, en tant qu'élu, associé à ces décisions ?
Je crois que nous avons un État qui est foncièrement jacobin et qui ne sait pas vraiment qui voudrait essayer de faire des efforts en matière de décentralisation, puisqu'on parle de territorialisation, qu'on en a beaucoup parlé avec le Premier ministre, qui est très, 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 très à l'écoute. Mais il y a une culture dans les administrations centrales qui est extrêmement jacobine.
Oui, vous êtes d'accord, Romain Pasquier ?
Oui, je suis assez largement d'accord.
C'est la crainte de la fédéralisation, par exemple, cette idée que...
Oui, écoutez, l'État, comment s'est construit l'État français ? L'État français s'est construit contre les territoires. Hein. C'est la Révolution française, c'est la fête de la Fédération, c'est la nuit du 4 août, la fin des privilèges. C'était la fin des privilèges des provinces. Donc tous les grands corps de l'État, lorsqu'ils sont formés, ils sont formés à l'intérêt général, qui doit être un rempart contre toute forme de particularisme. Donc les élus locaux, et en particulier les régions, sont toujours soupçonnés par les grands corps de l'État, effectivement, de poursuivre
des
stratégies très particulières, correspondant à des intérêts locaux particuliers, et n'incarnant pas une forme d'égalité territoriale que seul l'État serait en capacité de réaliser. Donc là, on est face à un logiciel très vertical, très jacobin, et qui effectivement, c'est ce que certains sociologues anglo-saxons appellent l'État profond. C'est la bureaucratie qui, en réalité, fait des choix très forts en matière d'options de politique publique qui écartent systématiquement les régions ou toute vision différenciée du territoire.
On sait combien l'usage du terme d'État profond peut être varié selon le contexte dans lequel on l'utilise, en particulier par certains conservateurs américains ou par ceux qui contestent justement l'existence d'une structure étatique même dans certains pays. Géraldine Chevrier, sur cette question justement de cette réticence naturelle, disons, de l'État central à déléguer, à ouvrir encore plus la décentralisation, alors qu'on annonce tout le temps, comme le disait à l'instant Marie-Guide Dufay, eh bien qu'on en donnera plus, qu'on donnera plus de compétences et également plus de moyens, et on n'y arrive pas toujours.
Non, alors il faut toujours nuancer. Il est évident que pour l'État, les collectivités territoriales ne sont capables ni de produire de l'égalité, ni de produire de l'intérêt général. Une conception de la collectivité qui est comme une personne privée plutôt qu'une personne de droit public. Alors que même que la collectivité est celle qui précisément produit de l'égalité parce qu'elle produit de l'égalité réelle. Elle adapte les missions au territoire. Ensuite, il y a une difficulté qui demeure, c'est que un gouvernement en place, un président de la République, il a besoin de maîtriser. Vous êtes en période de pandémie, il se passe quelque chose de grave, on n'a pas de vision à moyen terme, on est sur du court terme.
A priori, c'est également encore à un an et demi d'une élection principale, qui est l'élection présidentielle, avec des présidents de région qui pourraient être ses concurrents aux élections.
Donc c'est extrêmement difficile, d'une part sur un plan politique, de faire confiance au territoire, et d'autre part, quand on est dans une situation aussi complexe et brutale, de décentraliser. Néanmoins, il y a une prise de conscience d'année en année qu'il n'est plus possible de fonctionner comme ça. Il y a une incapacité à passer à l'acte, il y a une incapacité à passer du discours « je décentralise » à la réalisation, mais on va les prendre au mot. On a, si j'avance pas trop vite pour vous, un projet de loi 4D.
Oui, allez-y.
Et 3D et 4D.
Donc, il s'appelait 3D auparavant et on a rajouté un quatrième terme au
décomplexification, pour complexifier un peu le titre.
Exactement. Mais dont le plus important, c'est différenciation. C'est le
différenciation. Alors, la première chose, c'est que le projet de loi envisage
porté
davantage...
Porté par Jacqueline Gourault.
Par Jacqueline Gourault, qui est une vraie élue de terrain avant d'être une ministre de la cohésion territoriale. Et elle accepte que les collectivités territoriales ne voient pas toutes les choses de la même façon. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails-là parce que ça ne concerne plus la région, mais dans le projet de loi, il y a des possibilités de demander aux collectivités territoriales si elles veulent avoir des transferts de portions de route pour les départements.
Des petites lignes ferroviaires, si des gares.
Voilà, si elles veulent expérimenter pour les régions... des transferts de routes nationales également.
Le transfert du réseau Natura 2000 sur les régions, par exemple.
C'est ça. Une expérimentation également en matière de RSA. Donc, on est sur plus de différenciation. Mais surtout, la pandémie a fait avancer les choses parce que les régions qui n'ont effectivement, on vient de le répéter plusieurs fois, pas de compétences sanitaires, se voient considérablement renforcées au sein de l'ARS. Il y aura plus de conseil de surveillance, mais un conseil d'administration, avec un tiers des membres qui seront des collectivités territoriales et des deux vice-présidents. Et il est évident qu'un des deux vice-présidents sera le président du conseil régional. Alors là, il y a une insatisfaction des régions parce qu'elles demandaient une coprésidence. Et ce qui me semble, ce serait assez logique, puisque parmi les autres, il y a énormément de missions en lien avec le sanitaire. Le financement des formations des infirmiers qui relèvent des régions, la possibilité d'accorder des aides à l'installation de professions de santé dans certaines régions. Et on va leur proposer de financer les infrastructures hospitalières. C'est ce qu'a montré la Covid quand même, c'est qu'on a des hôpitaux dans un sale état avec assez peu de place. Si les régions financent, comme elles l'ont fait pour les lycées, l'infrastructure hospitalière, il me paraît assez logique qu'elles aient plus de puissance au sein de l'ARS.
On parle beaucoup d'histoire dans cette émission d'actualité, puisque effectivement on évoque la profondeur des rapports entre régions et État aujourd'hui, en repartant vers la Révolution française, mais on pourrait repartir tout simplement vers 1981, passe d'armes à l'Assemblée nationale entre un certain monsieur Debray, Michel Debray, premier ministre du général de Gaulle et fervent organisateur de la centralisation, et Gaston Defferre qui portait la loi de décentralisation.
Où il faut ouvertement modifier la Constitution, où il faut, ce qui est ma conclusion, tout en affirmant une volonté délibérée de décentralisation, notamment municipale et départementale, maintenir au président de la République, au Parlement, au gouvernement, en charge de l'État, les moyens juridiques d'être ce qu'ils sont, l'expression active, quotidienne, permanente, de l'unité nationale et de la légitimité de la République.
France Culture.
Mais monsieur Debray, nous sommes entièrement d'accord et je ne propose rien dans le texte qui est soumis à l'Assemblée qui puisse laisser supposer
le temps du débat
que le gouvernement veut faire passer la France d'une constitution unitaire ou d'une conception unitaire
Emmanuel Laurentin.
À une conception fédérative.
On le voit, 27 juillet 1981, débat parlementaire à l'Assemblée nationale entre Michel Debré et Gaston Defferre. On sent effectivement tout le sel des débats que nous avons encore actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Guide Dufay ?
Je pense qu'on avance vraiment très 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 lentement. Et cette loi 3D, là maintenant 4D, mais elle accouche d'une souris. Il n'y a rien dedans d'intéressant pour les régions. Je pense que pour les autres niveaux de collectivités, il y a sûrement des choses un peu plus intéressantes. Mais pour les régions, non, franchement, il n'y a rien. Sur, ça vient d'être très bien dit par la madame professeure de droit public sur la santé, bon, effectivement, on va être davantage dans les conseils d'administration, mais nous avions demandé à copiloter avec les ARS. Mais surtout, on ne voit rien. C'est des très petites choses. Nous avions demandé à avoir davantage de compétences et donc de moyens financiers sur la question centrale de la transition énergétique, parce que c'est vraiment une question qui domine et qui doit dominer toutes les politiques publiques aujourd'hui. Il n'en est rien. Par contre, on nous avance effectivement des propositions pour reprendre des routes. On n'a jamais demandé le transfert des routes nationales. On a bien assez déjà avec les TER. Hein. Et ça, du coup, ça s'apparente quand même plus à du transfert financier qu'à de la décentralisation. Hein. Nous demander aux régions de payer maintenant les routes nationales. Non. Vraiment, cette loi, elle n'accouche de rien du tout. Elle est extrêmement, mais extrêmement décevante. Hein.
Ouais. Et donc, ça sera présenté début février. Donc, on pourra savoir si elle a été modifiée selon des souhaits qui sont les vôtres. Romain Passier, vous expliquez souvent dans votre travail que, en fait, les régions, on en a fait des nains financiers et des nains politiques. Vous appelez ça des colosses au pied d'argile.
Oui, effectivement. On peut prendre quelques petits chiffres, juste deux ou trois. L'Île-de-France, c'est l'une des régions européennes les plus riches, après le Grand Londres, c'est 12 millions d'habitants. Eh bien, le budget du Conseil régional d'Île-de-France, c'est 5 milliards d'euros. 5 milliards. À côté de ça, vous avez l'Écosse. C'est 5,5 millions d'habitants, c'est-à-dire moitié moins que l'Île-de-France. Eh bien, le budget, c'est 46 milliards d'euros. 46 milliards d'euros.
Donc, et c'est peut-être ce qui fait peur au pouvoir centralisé que de voir. C'est peut-être ce qui fait peur au pouvoir centralisé que de voir l'Écosse vouloir partir de la tutelle de Londres en se disant si on leur donne trop d'argent.
C'est-à-dire. On touche à l'essentiel, c'est-à-dire l'exercice de compétences. L'Écosse gère les universités, gère l'éducation et gère la santé. Donc effectivement, là, on a une différence fondamentale. L'autre différence fondamentale, c'est l'exercice d'un parlement, c'est-à-dire le partage du pouvoir normatif. Ça a bien été dit sur la loi 4D, il n'y a pas de partage du pouvoir normatif. On est dans un transfert de charges, encore une fois. L'État qui est très endetté, il va ressortir encore plus endetté de la crise sanitaire, transfère des charges aux collectivités territoriales, sur les hôpitaux, sur les routes, parce qu'il ne peut plus financer. Hein. Et donc, alors que, au contraire, il ne veut pas partager son pouvoir législatif et il ne veut même pas partager son pouvoir réglementaire. Donc la loi 4D, sans réforme constitutionnelle telle qu'elle se présente, c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée nationale lorsque j'ai été auditionné. C'est une toute petite réformette de plus et ce ne sera certainement pas une révolution territoriale.
Oui, Géraldine Chavrier.
Écoutez, je peux qu'adhérer à tout ce qui a été dit. Quand on regarde le pouvoir normatif, les régions sont le niveau...
Qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir normatif?
Alors, pouvoir normatif, c'est que vous avez une compétence, par exemple l'aide aux entreprises. Est-ce que vous contentez de donner de l'argent en fonction d'un décret de l'État qui dirait l'argent que vous pouvez donner aux entreprises, c'est une prime à la création d'entreprises, une prime à l'emploi, ou est-ce que vous inventez vous-même votre propre régime d'aide aux entreprises en vous disant quelles sont les entreprises sur mon territoire, quelles sont les difficultés, qu'est-ce que je pourrais imaginer comme type d'aide et comme politique économique pour les développer? Eh bien, vous voyez ça, ça a été fait en 2002. C'est-à-dire que jusqu'en 2002, c'est l'État qui, pour les aides aux entreprises, décidait à la place de chacune des régions. Alors, vous imaginez que la région Île-de-France n'était pas du tout dans la même situation que la région, à l'époque, on l'appelait Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Bah, tout le monde appliquait la même politique. Puis un jour, sans même s'en rendre compte, ce n'est plus le décret qui fixait les types de régimes qu'on pouvait attribuer, c'est l'Assemblée délibérante régionale. La loi 4D dit parce que ça fait un moment qu'on en parle, hein, on va progresser et on va transférer plus de pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales. On regarde l'avant-projet de loi 4D, enfin on a des bribes, et on nous donne comme exemple, alors on va plus renvoyer au pouvoir réglementaire des collectivités, par exemple, la liste des documents nécessaires pour l'inscription dans les établissements scolaires. Vous imaginez, entre 2002, l'audace de 2002, et ce qu'on nous dit là, maintenant, pour 2021, la liste des documents nécessaires pour l'inscription dans les établissements scolaires. On n'avance pas. Et là où je voudrais quand même rajouter une chose, vous avez à passer un extrait extrêmement passionnant, la question de la décentralisation par la loi ou par la Constitution. Mmh. Et la présidente de région a bien précisé qu'on n'avait pas avancé. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on a avancé, mais on n'a pas avancé. On a une révision constitutionnelle de mars 2003 sur l'organisation décentralisée de la République, qui vous donnait tout. Elle donnait un vrai pouvoir réglementaire local pour pouvoir appliquer la loi à la place du décret du Premier ministre. Elle permettait de déroger à la loi par le droit à l'expérimentation.
Et qu'est-ce qui
s'est passé ? Elle posait un principe d'autonomie financière. Eh ben, les habituels réflexes jacobins de l'État. On avait un principe d'autonomie financière. On a une loi organique qui a complètement rendu inefficace le principe constitutionnel. Le droit à l'expérimentation, on l'a jamais utilisé parce qu'on sait même pas quoi faire. On sait même pas quoi expérimenter. C'est l'État qui le décide. Il n'y a pas d'initiative locale. Puis déroger à la loi, ça fait un peu peur. Le pouvoir réglementaire local, on n'y pense pas non plus. Tout est centralisé. Il faut maîtriser au niveau étatique.
Oui, Marie-Guide Dufay.
Oh ben oui, mais je suis complètement d'accord avec ça. Je vous redis que sur la question écologique et énergétique, ça doit être le nerf de la guerre des politiques publiques. Depuis que je suis présidente de région, je vais très loin dans tout ce qui concerne la rénovation énergétique des logements, des bâtiments. Et je me heurte sans arrêt à l'État qui n'est pas du tout sur les mêmes critères, les mêmes... Bon. Et un jour, j'apprends que l'État va mettre en place un service public de la rénovation énergétique. Formidable ! Enfin, on va pouvoir travailler ensemble ! Mais c'est absolument extraordinaire, parce que l'État s'est rendu compte, à ce moment-là, que nous étions probablement, en Bourgogne-Franche-Comté, une des régions qui, sur cette question de la rénovation énergétique, avait le plus avancé. Donc il fallait absolument que nous puissions être compatibles avec ce service public que mettait en place l'État. Or, nous leur avons expliqué que si on travaillait pas ensemble pour mettre en place ce service public, ça collait pas. Et ça collait pas. On n'arrivait pas à faire rentrer nos politiques dans celles que l'État voulait. Comme chacun y est a mis de la bonne volonté, on a construit quelque chose, mais qui est d'une très grande complexité. Mmh. Et tout ça parce que, en fait, les choses, elles partent d'en haut. Et on part pas d'en bas et du travail avec nous au départ.
Vous devez lorgner un tout petit peu tout de même, Marie-Guide Dufay, vers, par exemple, prenons l'exemple de votre grand voisin, le Grand Est, la collectivité européenne d'Alsace, vous vous dites, tout compte fait, ils ont réussi à autonomiser une partie de ce territoire très grand du Grand Est, même si, il n'y a pas de statut particulier, contrairement à la Corse, c'est que derrière le nom, il n'y a pas les compétences non plus, mais néanmoins, ça peut satisfaire une certaine volonté d'autonomie.
Oui, je pense que l'Alsace est un cas particulier, hein. Très, 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 très particulier. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des avancées non plus. Et puis, quand on discute avec les ministres, la notion de différenciation territoriale, c'est quelque chose maintenant qu'ils entendent. Et c'est pour ça que je trouve quel dommage que dans cette loi qui devait comporter des éléments en matière de différenciation, on trouve si peu, quoi. Hein. Mmh. Et c'est vrai qu'on sent, en discutant, que...
ça n'est plus tabou. Parle.
Mais quand on voit quand même les avancées de la décentralisation, enfin, regardez les lycées, quand les lycées, et puis les collèges pour les départements, c'est un exemple extrêmement clair. Quand les lycées et les collèges étaient gérés par l'État, eh bien, l'État ne faisait pas les travaux qui étaient nécessaires. Regardez maintenant combien les collèges et les lycées sont modernisés, comment les internats sont adaptés, numérisés, etc. Mais parce que on est prêt, et ces établissements sont prêts du pouvoir de décision, donc du pouvoir régional ou du pouvoir départemental, et donc c'est quand même, voilà, une avancée de la décentralisation.
Ouais.
On devrait plus faire la part des choses entre l'État régalien et qui ne cède pas de compétences en matière, effectivement, ni de sécurité, ni de justice, mais qui, sur tout ce qui concerne la question de l'intervention économique, la question culturelle, la question de l'aménagement du territoire. Mais l'OAD doit faire confiance à ces territoires.
Oui, mais vous savez bien, par exemple, que lorsque la Cour des comptes fait le bilan des décentralisations successives, elle est toujours extrêmement sévère. Que là, lorsqu'elle a fait le bilan de la dernière grand saut territorial, le passage à 13 régions, eh bien, elle a dit ça a coûté beaucoup d'argent et ça n'a pas rapporté ce qu'on pouvait escompter.
Oui, je m'inscris en faux. J'en ai déjà beaucoup discuté, d'ailleurs, avec la Chambre régionale des comptes. Il est beaucoup trop tôt pour faire un bilan financier de la fusion des régions. Alors, ceci dit, la fusion des régions, c'était peut-être pas forcément la meilleure chose qu'il fallait faire. Hein. Mais la fusion des régions, elle a été décidée. Moi, je ne faisais pas partie de ceux qui pensaient que ça allait produire des économies, parce que je vois pas comment...
On avait pensé à 10 milliards d'économies, et en fait, oui, il y a 250 millions de plus.
J'ai pas fait partie de ceux qui pensaient cela. J'ai, par contre, au niveau économique... Au niveau des dynamiques économiques, je vois clairement des dynamiques depuis que nous sommes une plus grande région, des dynamiques de complémentarité entre des territoires qui s'ignoraient de la Bourgogne à la Franche-Comté, avec un exemple magistral qui est la question de l'hydrogène. Nous sommes aujourd'hui une région d'hydrogène, mais c'est né vraiment de la fusion des régions et de la rencontre d'acteurs qui étaient totalement complémentaires entre la Bourgogne et le Nord-Franche-Comté.
Ce point, Romain Pasquier, de cette méfiance et surtout du manque de réforme peut-être de l'administration et de l'action publique, qu'est-ce que vous pensez? Parce que ça pourrait s'accompagner aussi d'une vraie réforme de l'ensemble de l'architecture de l'État, ce qui n'a jamais été véritablement pensé.
Oui, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que l'État ne s'est jamais adapté à la décentralisation. La décentralisation aurait dû générer une vraie discussion sur qu'est-ce qui relève du régalien et qu'est-ce qui relève du non-régalien, avec un transfert global de ce qui relève du non-régalien aux collectivités territoriales. Et effectivement, on le voit bien sur cette crise sanitaire, on voit bien que sur tout ce qui est développement, réactivité, interaction avec les entrepreneurs, les associations, etc., les collectivités territoriales savent beaucoup mieux faire que l'État.
Et vous avez écrit un article dans le Figaro, je crois, qui s'appelait « Comment le centralisme français a-t-il pu faillir à ce point au moment de la première crise de la Covid au printemps, en parlant d'hypercentralisation et d'hyperprésidentialisme, en l'occurrence, Romain Pasquier ?»
Oui, écoutez, c'est tout ce que l'on a constaté. Je renvoie aussi aux travaux récents d'Olivier Borras sur Covid-19, une crise organisationnelle, l'hypercentralisation, une crise pandémique qui se concentre sur deux ou trois régions, et on immobilise tout le monde, précipitant la France dans une des pires récessions économiques et sociales en Europe. Donc je pense que là, effectivement, on est sur une crise organisationnelle, si vous voulez, où il y a très peu de coordination au sein des administrations d'État, ça on en parle assez peu, il y a très peu de coordination entre l'État et les collectivités territoriales, et très peu de coordination aussi entre les collectivités territoriales elles-mêmes. Donc on est sur une désorganisation organisationnelle majeure, je pense qu'on est sur une défaillance majeure du système organisationnel français, et que la crise du Covid révèle cela. On
mais
le savait avant,
ouais. Géraldine Chabrier.
Mais à nu.
Géraldine Chabrier, il y aura la crise économique qui va suivre, effectivement. Oui. Et là, les régions, elles auront un pouvoir.
C'est même le premier niveau de lutte contre la récession économique. Les régions, elles ont une compétence de développement économique, d'aide aux entreprises pour créer et étendre de l'activité économique. Elles établissent des schémas pour le niveau régional de façon à coordonner les actions du bloc communal, commune, intercommunalité. Et elles sont extrêmement présentes. On a vu, il y a eu un moment de détente dans les relations entre l'État et les régions pendant l'été, quand Castex a été nommé, il y a eu des rencontres, il y a eu des contrats, il y a un plan de relance, on s'était mis d'accord, les choses évoluaient bien. Donc la région, c'est le niveau entre la formation professionnelle, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on va avoir des jeunes gens à former, on a des personnes qui sont privées d'emploi depuis un certain moment, il y a la formation professionnelle, il y a le développement économique, elles vont être au premier plan. Mais qu'est-ce qu'est-ce qui se passe puisqu'on parle de crise organisationnelle? Eh bien, il se passe que, d'une part, la relation qui avait commencé à s'installer avec Castex se retend parce que les régions ne sont pas suffisamment prises en compte, mais aussi, on a des sous-préfets à la relance.
Oui.
On a des sous-préfets à la relance. Et à quel moment tout ce beau monde va travailler avec la région? Qu'est-ce qui est prévu pour qu'il y ait une coordination région? État. C'est un gros problème français, c'est que dans beaucoup d'États européens, enfin dans les États européens, vous avez une instance de coordination régulière entre l'État et les régions, précisément parce que, je vous le disais tout à l'heure, c'est un niveau qui est supra-local. Et en France, on n'a pas ça. Alors, on l'a envisagé dans la loi 4D.
Sachez que Jean Castex était aujourd'hui à Toulon pour signer un premier accord régional de relance, justement.
Oui, ça c'est prévu. Mais après, il faut aller au-delà. Il faut qu'il y ait une coordination. Il faut que les sous-préfets à la relance travaillent avec la région. Rien n'est prévu. Et il faut une instance de coordination région-État régulière pour avancer.
Marie-Guide Dufay.
Oui, alors, vous avez parfaitement raison. Et nous l'avons mise en place en Bourgogne-Franche-Comté. Donc elle est mise en place, mais c'est absolument pas légal, réglementaire, institutionnalisé. Mais c'est mis en place parce que depuis 12 ans que je suis présidente de région, j'estime que il faut travailler la main avec l'État décentralisé et que là, à la faveur de la crise, c'est vraiment extrêmement important que l'on soit super coordonnée pour être efficace. Et donc cette coordination, qui est régulière, chaque semaine, elle a abouti même à la création d'un site internet commun. Ce site a été fait par la région. Il est commun avec des équipes dédiées État-Région pour accueillir les projets, les demandes de soutien des entreprises. On est vraiment là dans une coordination totale, mais parce qu'effectivement, la compétence économique, c'est une compétence qui nous est reconnue. Hein. Et donc, l'État a mis beaucoup de moyens sur la question de l'accompagnement de toutes les activités qui ont été fermées, et puis ensuite de la relance. Mais les régions aussi, dans un esprit d'ailleurs de complémentarité avec l'État. Et ça, dans ma région, cette coordination, elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien. Mais c'est vraiment uniquement sur l'échelon régional, quoi. C'est pas au niveau central.
Oui. Sur ce point, Géraldine Chabrier, on arrive au bout de cette émission.
Ben, c'est un exemple à généraliser. Le développement économique, c'est une coopération entre l'État et les régions, mais c'est quand même les régions qui seront au premier niveau. Et le projet de loi de 4D n'en tient pas suffisamment compte. Il y a énormément de choses à changer. Pourquoi est-ce que c'est le préfet qui arrête le schéma régional de développement économique? Qu'est-ce qu'on fait pour faciliter l'action des régions en matière de capital investissement, pour aider les entreprises à avoir des fonds sans recourir à l'emprunt? Il y a énormément de questions qui restent en suspens.
Romain Pasquier, le dernier mot. Ah, Romain Pasquier, vous n'êtes plus avec nous. Merci à tous les trois. Merci à vous, Marie-Guide Dufay, d'avoir été avec nous. Malgré vos nombreuses activités en tant que présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, merci à Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS et enseignant à Sciences Po Rennes. Et merci à vous, Géraldine Chabrier, professeure des universités en droit public à Paris 1 et également avocate spécialiste des collectivités territoriales. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Gilles, avec nous à la technique ce soir, Jacques Azubert, et à la réalisation, Alexandre Manzanares.